Vous écoutez Les Procès de l'Histoire, épisode 6, l'affaire Henriette Caillot, deuxième partie.
Henriette revient chez elle peu après 16 heures et change de toilette. Elle hésite encore à aller prendre le thé chez une amie, puis se décide pour se rendre au Figaro. Avant de partir, elle laisse un mot à son mari.
Je lui ai écrit que j'avais compris qu'il voulait casser la figure à Calmette. Parce qu'en France, nous n'avions aucune loi pour nous protéger contre les calomnies de la presse. Mais la France et la République ont besoin de lui. Et donc, c'était à moi de nous faire justice.
Le directeur de cabinet de Joseph Caillot, inquiet de l'état de Madame Caillot, essaye de la joindre à son domicile vers 17 heures. Mais Henriette s'est déjà engouffrée dans sa voiture avec chauffeur, dont elle a fait enlever le fanion officiel du ministère. Le petit revolver Browning 6.35 a facilement trouvé place pour se cacher dans son manchon. 3 mois de cabale médiatique contre Joseph Caillot, son mari, ministre des Finances, haï par la droite et les partisans de la guerre. Une santé mentale fragile qui semble confiner lentement à la folie. Henriette Caillot est-elle maîtresse d'elle-même lorsqu'elle arrive au siège du journal Le Figaro? D'après tous les témoins, elle est calme, déterminée. Nul ne pourra jamais dire si elle a pleinement conscience que dans quelques minutes, elle va devenir la meurtrière la plus célèbre de France.
L'huissier qui m'a accueilli dans les locaux du Figaro m'a immédiatement indiqué que Gaston Calmette n'était pas là. J'ai décidé de l'attendre. Je jure que je voulais juste lui faire peur.
Ironie du sort, Calmette n'a pas prévu de passer à son bureau ce jour-là. Vers 18 heures, il décide finalement d'y faire un saut, car il a un courrier à prendre. Il est accompagné de son ami, l'écrivain et académicien Paul Bourget.
Nous étions pressés, car il avait rendez-vous sur les Champs-Élysées avec une personnalité politique de premier plan, dont je ne peux vous divulguer le nom. Et nous allions repartir quand Étienne, l'huissier du journal, nous rattrape et informe Gaston qu'une femme l'attend.
Paul Bourget est interloqué par l'expression d'étonnement et d'indécision de son ami à la lecture de la carte de visite. Le nom d'Henriette Caillot lui saute aux yeux.
J'ai voulu l'en dissuader. Mais Gaston a laissé tomber cette phrase, gravée dans ma mémoire. Je reçois toujours les femmes. Il a semblé hésiter encore un instant, puis il s'est dirigé vers son bureau. Et là, j'ai vu son destin devant moi.
Quand Henriette pénètre enfin dans le bureau de Gaston Calmette, il fait sombre.
Je lui ai dit, vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite? Mais non, pas du tout. A-t-il eu l'impudence de me répondre? Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sorti mon arme de mon manchon et j'ai tiré.
Les 6 balles du chargeur partent. Les 2 premières s'incrustent dans le bas de la bibliothèque. Alors que Calmette, terrorisé, tente de se cacher derrière son bureau, il reçoit les 4 balles suivantes. La première le blesse à la cuisse. La seconde déchire son bassin, la troisième est arrêtée par son portefeuille et la dernière glisse sur son thorax. Seule la balle entrée dans son bassin est mortelle. Elle a perforé l'artère iliaque.
Avec un Browning, quand on a commencé à tirer, on dirait que l'arme fonctionne toute seule.
Vous rendez-vous compte? Elle vient d'abattre un homme de sang-froid. De sang-froid, n'est-ce pas?
Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro.
Et elle reste là, impassible, avec cet air hautain et la tranquillité absolue d'une femme qui vient de commettre une chose toute naturelle.
Tout le monde n'a pas l'émotion bruyante.
Les policiers arrivent. Henriette Caillot est là à les attendre. On a l'impression que c'est elle qui les a fait appeler. Et on a l'impression que c'est elle qui les emmène comme une maîtresse emmènerait ses domestiques, puisque c'est elle marche devant eux. C'est elle qui les emmène au commissariat dans sa propre voiture.
Quelques heures plus tard, en fin de soirée, Gaston Calmette, malgré les efforts des chirurgiens, rend son dernier soupir à la clinique de Neuilly.
Oui, dans la soirée, personne n'a voulu croire à une blessure mortelle.
Raymond Poincaré, président de la République française.
On pensait à un canular. Même la rue était incrédule.
Quand enfin l'opinion prend conscience de l'énormité de la vérité, Paris est en ébullition. À l'appel de l'extrême droite, des cortèges se forment sur les boulevards, au cri de « Caillot assassin, Caillot assassin !» Ils sont soutenus par les habitants. Aux terrasses des cafés, on applaudit. Caillot, lui, a compris.
L'assassinat de Gaston Calmette, c'est aussi un petit peu l'assassinat de Joseph Caillot. Henriette n'a vraiment pas réfléchi, car à partir du moment où sa femme a tué le directeur du Figaro, Caillot, qui était ministre des Finances, numéro 2 du gouvernement, doit démissionner.
Ma position au gouvernement était évidemment intenable.
Joseph Caillot, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire.
J'ai donc téléphoné à Gaston Doumergue, le président du Conseil, pour lui offrir ce dont Calmette a tant rêvé, ma démission.
Si sa femme est condamnée, il peut très bien ne jamais revenir en politique. Et si la gauche gagne les élections, et elle gagnera les élections en avril mai 14, eh bien il ne pourra pas devenir président du Conseil, à cause du geste inconsidéré de sa femme.
Après 4 mois d'un engrenage inexorable, l'affaire Caillot compte désormais ses victimes. Gaston Calmette, directeur du Figaro, abattu de 6 balles de revolver. Henriette Caillot, emprisonnée à Saint-Lazare. Et Joseph Caillot, ministre des Finances, démissionnaire. 2 France s'affrontent. Ceux qui considèrent l'inculpé comme une meurtrière abjecte et ceux qui s'apitoient sur la détresse d'une femme poussée à bout par un journaliste véreux. Dans la presse de droite, le couple Caillot n'est plus désigné que par des formules du genre « Caillot de sang, ménage d'assassin ». Et à gauche, on titre, plein d'ironie, « Calmette est mort, victime d'un accident du travail ».
Certaines prises de position dépassent le grotesque.
Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro.
D'aucuns, par exemple, prétendent que Madame Caillot était indisposée le matin du crime et que cette faiblesse bien féminine l'avait donc régentée, telle une force aveugle.
C'est dans ce contexte que se déroulent les élections décisives des 26 avril et 5 mai. Contre toute attente, Caillot n'est pas disqualifié politiquement. Dans son fief de la Sarthe, il a accepté d'être de nouveau candidat à condition de ne pas faire campagne. Et il est réélu triomphalement. Sur le plan national, la droite s'effondre, la gauche triomphe. S'il s'allie à la SFIO de Jean Jaurès, Caillot peut encore espérer diriger le pays.
Mais je ne peux prétendre gouverner la France tant qu'Henriette est en prison. Je lui rends visite tous les jours. J'organise sa défense. Il nous faut gagner le procès. À tout prix.
Le 28 juin 1914, un étudiant bosno-serbe abat de 2 coups de revolver l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche. Événement tragique pour l'histoire, puisqu'il sera l'origine du déclenchement de la guerre. Mais l'opinion publique française n'en a cure. Elle n'a d'intérêt que pour le procès Caillot, qui s'ouvre en juillet 1914. Avec une question. Joseph Caillot va-t-il sauver la tête de sa femme Henriette et par là même reprendre en main les rênes du pays? Le procès d'Henriette Caillot s'ouvre le 20 juillet 1914. Il attire le tout Paris. Les places manquent. Les mondains se disputent les cartons d'invitation, comme pour une pièce à succès.
C'est un procès qui attire le tout Paris. Il faut y être.
Jean-Yves Le Naour, historien et auteur du livre « Meurtre au Figaro ».
Il y en a qui sont perchés sur les lampadaires, qui sont perchés sur les radiateurs. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Tout le monde veut en être.
Un spectacle indigne de la justice. Une foire d'empoigne ridicule.
Un procès entièrement manipulé, n'est-ce pas ? faussée, viciée par Joseph Caillaux et ses hommes.
Totalement truquée, totalement. D'abord, le président Albanel. Il a demandé à être le magistrat qui jugerait.
Oui, le président Albanel. Je n'ai rien pu faire pour éviter cette nomination. Car elle dépend de Bienvenu Martin, le garde des Sceaux, qui avalise les candidatures des magistrats volontaires. Bienvenu Martin, un proche de Caillaux. Il a donc accepté la candidature d'Albanel, qui a sollicité l'honneur de diriger les débats comme président du tribunal. Albanel, lui aussi un ami de la famille Caillaux.
On sait que son fils est au parti radical, que Albanel rencontre Caillaux, qu'il a déjà dîné avec lui. Bref, il est très proche de Caillaux. Et s'il a demandé à juger l'affaire, c'est sans doute évidemment pour avantager Caillaux dans cette histoire. Ensuite, il y a le procureur. Eh bien, le procureur, il ne mordra pas. Il ne sera pas très sévère, parce qu'on lui a donné la Légion d'honneur juste avant le procès. Alors il est tout amadoué, et effectivement, il n'a pas retenu la thèse de la préméditation, par exemple.
Dans le box des accusés, une femme qui a tué de sang-froid, à bout portant et devant témoin, le directeur du plus grand quotidien national. Comment imaginer que la justice l'épargnera? Qui pourrait soutenir qu'elle est innocente? Un homme le peut, son mari, Joseph Caillaux. Très vite, sous son influence, le procès Caillaux va s'inscrire comme un des plus grands événements judiciaires de la Troisième République. Joseph Caillaux, sûr de lui, très politique, a tout prévu, tout organisé.
Je veux tout simplement qu'Henriette soit jugée équitablement. Et pour cela, il faut un bon jury, un président conciliant, un procureur qui ne l'est pas moi, et avoir dans le public du tribunal des gens bien qui sachent se féliciter et conspuer à bon escient, c'est tout. Et puis ce sont les jurés qui décident, pas les magistrats. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai le pouvoir de les choisir.
Quand on a amené l'urne pour choisir les jurés au hasard, eh bien cette urne était décellée. Alors l'huissier a dit qu'il était tombé dans les escaliers avec l'urne et que ça a brisé les scellés. Mais on peut tout à fait imaginer au contraire qu'on a brisé les scellés, qu'on a regardé les noms et recopié les noms et qu'ensuite on a fait des enquêtes.
D'une manière totalement illégale, la police, dirigée par le ministre Malvy, un proche de Joseph Caillaux, a enquêté sur les opinions des jurés potentiels.
Dans les archives de la préfecture de police, vous retrouverez des dossiers d'enquête, sur les opinions politiques de tous les jurés, potentiels qui pouvaient être tirés au sort pour juger Henriette Caillaux.
Conséquence, tous ceux identifiés comme ayant des opinions de droite ont été écartés et inversement, ceux proches du radicalisme figurent dans le jury. Déplorable, consternant.
Tous ceux qui étaient de droite, qui avaient des opinions très marquées à droite, très nationalistes, qui lisaient tel journal, l'Écho de Paris, le Gaulois, l'Action française, ont tous été récusés par l'avocat d'Henriette Caillaux.
Je reconnais que la chance nous a souri avec 11 jurés sur 12 sensibles aux idées de gauche.
Leur vote n'est pas acheté, évidemment, mais on peut imaginer qu'ils voteront pour l'acquittement d'Henriette Caillaux afin de sauver la carrière de Joseph.
Pour assurer la défense de sa femme, Joseph Caillaux a sollicité Maître Fernand Laborie, qui s'est illustré comme défenseur de Zola après son J'accuse.
Et Laborie, c'est aussi quelqu'un qui a été agressé par les nationalistes. Il a reçu des balles tirées dans le dos. Donc c'est un républicain, c'est vraiment une caution démocratique et républicaine.
Fernand Laborie est de plus fort habile dans son approche stratégique dans la défense de Madame Caillaux.
Oui. Mais en effet, la stratégie de Maître Laborie est simple et habile.
Raymond Poincaré, président de la République française.
Il considère que l'éventualité de la publication des lettres privées a causé chez Madame Caillaux une dépression nerveuse qui l'a rendue provisoirement irresponsable de ses actes.
Henriette Caillaux, quant à elle, a laissé son air hautain et méprisant.
Elle apparaît le teint pâle, les yeux baissés, les attitudes douloureuses. Un vrai masque de comédie.
Je ne joue aucun jeu d'aucune sorte. Comprenez seulement l'épreuve qui m'attend. Je suis et je demeure la victime dans cette affaire. C'est à peine si j'ose regarder la salle. Seule la présence de mon mari m'aide à surmonter l'épreuve.
Caillot maîtrise l'art oratoire, il a l'habitude de l'assemblée, donc ce n'est pas un prétoire qui lui fait peur.
Car le véritable héros du procès, c'est bien Joseph, et non Henriette. Tour à tour témoin, avocat et procureur, il est le véritable metteur en scène du vaudeville qui se joue au palais de justice.
Il distribue aussi des cartes d'invitation, comme s'agissait d'un théâtre ou d'un spectacle. Donc le public, il est aussi dans les mains de Caillot pour une part.
Du théâtre. Tantôt comédie bouffonne, tantôt tragédie larmoyante.
Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro.
Huées, murmures, applaudissements, insultes, même coups sont généreusement distribués. On ne songe plus guère à ce pauvre Gaston, si ce n'est pour couvrir de boue sa mémoire. C'est le monde à l'envers.
Très vite, ce n'est plus le procès d'Henriette Caillot. Certes, on pouvait penser que c'était le procès de Joseph Caillot pour la droite, mais on s'aperçoit très rapidement que c'est le procès de Gaston Calmette. Gaston Calmette, la victime, parce que il n'aurait pas dû crocheter les correspondances privées, il aurait pas dû pénétrer dans les alcôves, il n'aurait pas dû se mêler de questions privées, il aurait dû rester dans la décence, il a violé la déontologie journalistique et il a été puni par une femme courroucée qui n'a pas réussi à maîtriser ses nerfs. C'est un véritable crime passionnel, tant pis pour lui.
Le comble est atteint lorsque témoigne un spécialiste des armes à feu, le colonel Aubry. Son témoignage est clair. Henriette Caillot a tiré à chasser. C'est-à-dire qu'elle a tiré vers le sol pour faire peur à son interlocuteur.
Gaston Calmette, il n'a pas été assassiné, mais qu'il s'est carrément suicidé en se jetant au-devant des balles.
Il a clairement expliqué ce que je me suis tuée à dire. C'est parce que Calmette s'est accroupi que les balles l'ont touché. Il a été atteint par accident.
Le procès tourne au grand guignol. Pour contrebalancer la présence dans la salle des amis de Calmette et des royalistes de l'Action française, Joseph Caillot a fait recruter une bande de nervis dans les bas-fonds de la capitale. Tous sont de sympathiques truands corses.
Tous n'avaient sans doute pas un casier judiciaire intact. Mais les autres, ceux d'en face...
À l'époque, l'Action française, la mouvance royaliste a des étudiants qui veulent aussi batailler, casser du caillot. Donc il a cette espèce de bande autour de lui qui joue des coudes, qui distribue baffes et coups de poing, qui applaudit.
Des témoins récusés, une salle d'audience survoltée qui braille, siffle et hue, des juges siégeant côte à côte qui s'insultent. Non mais là, on nage en pleine mascarade. J'ai dû demander au garde des Sceaux d'y mettre bon ordre.
Le 24 juillet, la marche du monde rattrape ce procès qui tourne à la farce. L'Autriche-Hongrie vient d'adresser un ultimatum à la Serbie. L'Autriche-Hongrie est l'allié de l'Allemagne. La Serbie, celle de la Russie. Et la Russie, celle de la France.
Les choses, hélas, tournent telles que je craignais qu'elles le fissent.
Joseph Caillot, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire.
Le jeu des alliances est une machine infernale qui, une fois lancée, ne peut plus être arrêtée.
L'angoisse s'abat en effet sur les capitales européennes. Et c'est dans ce contexte que le 28 juillet, les plaidoiries commencent.
Chenu et Laborie se sont affrontés comme... deux adversaires désignés pour s'affronter et destinés à s'affronter.
Jean-Denis Bredin, avocat et auteur du livre « Joseph Caillot ».
Et Caillot a été ému et Laborie, terminant sa plaidoirie, a dit « maintenant, acquittez-la ». Acquittez-la parce que la guerre est à nos portes et elle doit être acquittée.
L'heure n'est plus à l'affrontement politique. L'accusation comme la défense sont tombées d'accord pour ne pas diviser les Français et refermer ce procès qui n'a que trop duré.
Ce procès qui passionnait les Français quand il a commencé le 20 juillet ne passionne plus les Français le 28 juillet. Parce que le 28 juillet, la guerre s'est invitée. L'armée austro-hongroise est en train d'envahir la Serbie.
La parole est donc maintenant au canon. Mais malgré l'actualité brûlante, il faut bien juger. Henriette Caillot est-elle coupable, oui ou non, du meurtre de Gaston Calmette? Au dernier jour du procès, la cour se retire pour répondre aux deux questions posées. Madame Henriette Caillot s'est-elle rendue coupable du crime de meurtre sur la personne de Gaston Calmette? Y a-t-il eu préméditation? Les jurés interrogent le président sur la possibilité d'un sursis. Le président Albanel les enferme dans un seul choix possible. Les jurés qui n'ont pas retenu la préméditation n'ont donc qu'à choisir entre l'acquittement, qui leur paraît trop peu, et la condamnation, qui leur paraît trop cher payé.
Je ne sais pas ce que j'aurais fait comme juré. Je veux dire, vu de l'extérieur, on est choqué que quelqu'un qui ait acheté un revolver et ait tué.
On estime que cette femme a été égarée par la passion, par ses nerfs, voilà, et que Calmette n'aurait pas dû la provoquer.
Elle pouvait être condamnée, elle pouvait aussi être acquittée au nom de valeurs supérieures.
Je pense que ce procès est totalement bousculé par la déclaration de guerre.
Un procès bousculé par la déclaration de guerre. Des valeurs supérieures. Une femme égarée par la passion. Oui, sans doute. Mais qu'elle le doive à l'extrême habileté de son mari ou au bruit de bottes à travers toute l'Europe, ce qui est sûr, c'est qu'Henriette est acquittée.
Acquittée ? Il n'y a pas eu de préméditation, alors n'est-ce pas ? Madame Caillot n'a pas tué Gaston Calmette. Il s'est suicidé, peut-être ?
Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro.
Une femme vide le chargeur de son pistolet à bout portant sur un homme et elle est acquittée. C'est inique. Scandaleux.
La justice a été rendue. Jamais je n'ai voulu tuer Gaston Calmette. Je regrette sa mort.
Quand elle est acquittée, la moitié de la salle applaudit, l'autre moitié de la salle...
C'est un tumulte indescriptible dans l'enceinte du tribunal. Henriette serre longuement son défenseur dans ses bras avant de rejoindre son domicile de la rue Alphonse de Neuville. Joseph, lui, affronte la foule sur les marches du palais, sous les vivats de sa garde corse et les cris de rage de ses adversaires.
J'ai retrouvé ma femme, mais j'ai perdu la France. C'est au moment où je triomphe que la route du pouvoir m'est définitivement barrée par la guerre.
Je me suis trompée en croyant laver l'affront fait à mon mari. Je lui ai sans doute causé du tort et j'ai empêché son accession au pouvoir.
Poincaré et Barthou ont réussi leur coup. Ils voulaient éviter que Caillot arrive au pouvoir. Caillot n'est pas parvenu au pouvoir. Et effectivement, les nationalistes vont prendre leur revanche avec la mobilisation, avec la guerre.
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare officiellement la guerre à la France. La Première Guerre mondiale commence. Joseph Caillot, s'il avait pu devenir président du Conseil, aurait-il pu empêcher la guerre? Personne ne le sait, mais lui l'a toujours cru. L'on peut donc seulement imaginer que s'il avait été au pouvoir, il n'aurait pu qu'en retarder l'échéance, tellement l'opinion publique française comme allemande voulait cette guerre.
Pourtant, cette guerre est une erreur, une imbécilité. Elle annonce la ruine du vieux continent.
Joseph Caillot, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire.
L'Europe, mère de toutes les colonies, va devenir à son tour une colonie, celle des États-Unis d'Amérique. Mais je suis bâillonné. Mes anciens amis me tournent le dos, emportés par la vague chauvine. L'heure est à l'union sacrée.
Henriette, après son procès, ne fera plus jamais la une des journaux et consacrera sa vie à sa carrière d'historienne d'art. Joseph, lui, continuera à subir la vindicte de Poincaré, qui, en 1917, le fera traduire devant la haute cour, dans l'espoir de le faire fusiller. Sans succès. Il restera tout de même 3 ans en prison, mais rebondira et sera à nouveau, dans les années 20, plusieurs fois ministre des Finances. C'est à Mamers, le fief de Joseph, qu'Henriette meurt en 1943, rejointe par Joseph à peine un an plus tard. Ils sont restés unis jusqu'au bout. Quant à la Première Guerre mondiale, elle causera 9 millions de morts. Et sur les ruines fumantes d'une victoire en trompe-l'œil, accouchera, avec le traité de Versailles et l'humiliation de l'Allemagne, d'un nouveau désir de revanche et d'une Europe à feu et à sang.
Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire Henriette Caillot, est un podcast coproduit par Injam Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Injam Productions et Synapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire. Imaginée et réalisée par Ghislain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Ghislain Vidal. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.